Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge, pour vous présenter le monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition du 28 août 2014, visite en Centrafrique du chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers. Après avoir rencontré Michel Djotodia, l'émissaire présidentiel pourrait approcher François Bozizé.
Dans notre entendement, nous pensons que là où ils sont, ils peuvent faire en sorte que la cessation des hostilités qui a été conclue à Brazzaville puisse devenir une réalité et que le désarmement puisse se mettre en place.
Clément Anissé, Guillaume Amasogo, conseiller de Catherine Samba-Panza. Lutte contre Boko Haram, la situation reste tendue dans l'extrême nord du Cameroun où des dizaines de militants ont été abattus par les forces de sécurité. La liberté de la presse est menacée à Djibouti selon Reporters sans frontières. Avant de développer ces titres et d'autres sujets d'actualité, voici le journal.
Les pays d'Afrique de l'Ouest frappés par le virus mortel Ebola sont de plus en plus isolés. De plus en plus de compagnies aériennes suspendent leurs vols vers leur capitale. Le point avec Idriss Fall.
Air France a annoncé hier la suspension provisoire de ses vols vers Freetown, suivant une recommandation du gouvernement français. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. British Airways a prolongé jusqu'à la fin de l'année la suspension de ses liaisons. Brussels Airlines, qui maintenait des vols hebdomadaires vers le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, a annulé plusieurs vols depuis samedi. En raison de la fermeture des frontières sénégalaises, la compagnie belge a indiqué qu'elle se déciderait en fin de semaine. Seule la Royal Air Maroc a affirmé maintenir ses plans habituels, un vol par jour vers Conakry et un jour sur deux en moyenne vers Monrovia et Freetown. Pour le Dr David Navarro, coordinateur de l'ONU, la décision de ces compagnies a un impact énorme sur l'acheminement du personnel et du matériel pour lutter contre l'épidémie.
Visite en Centrafrique du chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a été reçu hier à Bangui par la présidente Catherine Samba-Panza. Il s'est dit optimiste au sujet du rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Mentionnant le déploiement prochain de la MINUSCA, il a souligné qu'il s'agissait là d'un pas de plus sur la voie du progrès et de la réconciliation. Mais sur le terrain, les tensions demeurent dans le centre diamantifère de Bria, chef-lieu de la préfecture de la Haute-Coteau, entre les deux factions de la Séléka qui se sont affrontées récemment à Bambari. Pour les observateurs, ces dissensions internes soulignent la nécessité pour les autorités de la transition de maintenir le contact avec les dirigeants de cette coalition de plus en plus hétéroclite. Une analyse confirmée par le conseiller présidentiel Anissé Guillaume Amasogo qui a récemment consulté au Bénin l'ex-président Séléka Michel Djotodia à la demande de la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a invité hier les pays du Sahel à créer des unités spécialisées qui seraient chargées de surveiller les frontières afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé. Des détails avec Catherine Morin-Gibourg.
Par le biais de l'ambassadeur du Tchad à l'ONU, Mahamat Zene Cherif, les Nations Unies se sont déclarées hier préoccupées par la situation alarmante au Sahel et par les activités de groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram au Nigeria et Ansar Dine ou le Mujao au Mali. Des menaces graves pour l'ONU qui a également souligné les liens de plus en plus étroits entre le trafic de drogue et le terrorisme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande aux pays du Sahel de renforcer leur sécurité aux frontières en créant notamment des patrouilles conjointes et des unités spécialisées ainsi que des centres de coordination et d'échange d'informations. Mahamat Cherif a précisé que les Nations Unies et les partenaires internationaux devraient aider les pays du Sahel à créer et former ces patrouilles sur le long terme. L'ONU s'efforce de mettre sur pied une stratégie intégrée pour le Sahel combinant lutte antiterroriste, assistance humanitaire et aide au développement et de mobiliser 2 milliards de dollars en 2014 pour venir en aide à 20 millions de personnes menacées par la malnutrition dans la région.
Au Niger, le bureau politique du Parlement a autorisé l'audition par la justice de son président Ama Amadou sur la demande du gouvernement. C'est dans le cadre d'une enquête sur un trafic présumé de bébés venant du Nigeria. Les précisions de Lola Akomachri.
La levée de l'immunité parlementaire de Ama Amadou n'est pas encore requise à ce stade de l'enquête. Selon Mohamed Ben Omar, député proche du pouvoir et troisième vice-président du Parlement, le Conseil des ministres avait transmis mardi une requête du ministre de la Justice pour que le président du Parlement puisse être entendu. L'opposition dénonce la mesure. Selon Tidjani Abdul Kadri, un de ses élus, ce n'est pas à un bureau de l'Assemblée de livrer un député à la justice. Ce week-end, Abdul Labo, ministre de l'agriculture, a été mis derrière les barreaux. Au total, 17 personnes, dont l'une des épouses de Ama Amadou, sont incarcérées suite à cette affaire de trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Elles sont inculpées de supposition d'enfants, de faux et usage de faux et de déclarations mensongères.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a indiqué qu'un hélicoptère a été abattu, un de ses hélicoptères a été abattu au Soudan du Sud. L'attaque de mardi a fait 3 morts et un blessé grave parmi l'équipage. Lionel Gaïma.
Les 15 pays membres du Conseil ont condamné à l'unanimité cette attaque et exigé une enquête complète, transparente et rapide. 3 des 4 membres d'équipage de l'appareil sont morts mardi au sud de Bentiu, capitale de l'État d'unité. Toutefois, la déclaration du Conseil n'attribue pas la chute de cet hélicoptère à l'un ou l'autre camp impliqué dans les combats qui font rage depuis la mi-décembre au Soudan du Sud. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, le colonel Philippe Aguerre, a accusé les rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar d'avoir abattu l'appareil sans toutefois fournir de preuves. Un porte-parole des rebelles, Mabior Garang, a rejeté ces accusations qu'il a qualifiées de fallacieuses.
La liberté de la presse est menacée à Djibouti, selon Reporters sans frontières. Le pays occupe la 169e place sur 180 au classement de l'ONG. RSF cite à titre d'exemple l'arrestation le 8 août de Mohamed Ibrahim Weiss, reporter à la Voix de Djibouti. Alors qu'il couvrait une manifestation, il a été violemment interpellé et frappé, puis conduit au poste de police et détenu pendant près de 2 semaines. Voici la réaction de Cléa Kansriber, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières à Paris.
Cette arrestation de Mohamed Ibrahim Weiss, malheureusement, n'est pas la première en date. Ce type d'arrestation, c'est-à-dire de façon arbitraire, des journalistes qui sont en train de faire leur travail, de couvrir des manifestations, qui se retrouvent interpellés au même titre que les manifestants alors qu'ils ne participent pas à la manifestation, ils sont en train de la couvrir, et qui se retrouvent arrêtés pendant des périodes extrêmement variables et ensuite remis en liberté sans que vraiment aucune accusation n'ait été émise contre eux. Ça, c'est une pratique qui est assez courante, même très courante à Djibouti et qui vise clairement à intimider les acteurs de la presse indépendante qui sont presque inexistants. Il y a quelques médias en exil qui tentent d'apporter une information, mais le régime a vraiment, disons, mis le couvercle sur l'information indépendante à Djibouti.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le département d'État américain affirme que la Russie a envoyé plus d'actifs militaires dans l'est de l'Ukraine, indiquant qu'une contre-offensive russe est probablement en cours à proximité de 2 grandes villes contrôlées par les rebelles à la frontière. Selon la porte-parole Jen Psaki, le matériel militaire comprend des chars et des lance-roquettes. Elle a cité des rapports faisant état de bombardements par les séparatistes de zones résidentielles dans la ville portuaire de Mariupol. Madame Psaki a également indiqué que de violents combats ont éclaté à l'aéroport de Donetsk. Les responsables militaires ukrainiens et occidentaux qualifient l'incursion d'invasion. Selon le New York Times, des chars de l'artillerie et de l'infanterie ont traversé la frontière vers l'Ukraine à partir de la Russie à la ville frontalière de Novoavsk. Au cours des derniers jours, l'incursion a provoqué une retraite de l'armée ukrainienne et la panique dans la communauté russophone d'Ukraine orientale.
Israël et le Hamas revendiquent tous deux la victoire dans la guerre de Gaza de 50 jours alors qu'un nouveau cessez-le-feu est toujours en vigueur. Un porte-parole, Liran Dan, du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a déclaré que les tunnels utilisés par les militants du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza pour perpétrer des attaques en Israël ont été détruits. Il affirme que le Hamas a échoué dans ses efforts pour mettre fin à un blocus de l'enclave palestinienne le long de la Méditerranée. Le Hamas a dit avoir tué 64 soldats israéliens au cours du conflit, la plus lourde perte militaire de l'État juif depuis 2006. Plus de 2100 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes, essentiellement des civils mais aussi des dirigeants clés du Hamas.
Le cas de 4 anciens agents de sécurité de Blackwater, accusés d'avoir tué des civils irakiens, est entre les mains d'un jury fédéral dans la capitale américaine. Les 2 parties ont présenté leurs arguments de clôture mercredi. Les 4 accusés ont tué 14 Irakiens et en ont blessé 18 sur un rond-point à Bagdad en 2007. La défense a fait valoir qu'ils ont tiré en état de légitime défense contre les tirs d'insurgés. Elle affirme que la police irakienne a délibérément dissimulé des preuves montrant que les gardes étaient attaqués. Les procureurs disent de leur côté que les 4 hommes ont abattu des civils qui tentaient de fuir une voiture piégée visant apparemment un responsable du département d'État américain. Un des gardes est accusé de meurtre au premier degré et risque la prison à vie. Les 3 autres sont accusés d'homicide involontaire et risquent au moins 30 ans de prison.
Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui. Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. Au Cameroun, la situation reste tendue dans la région de l'extrême nord où les autorités disent que les forces de sécurité ont tué au moins 30 militants présumés de Boko Haram cette semaine. Des armes lourdes et au moins un véhicule des assaillants ont été détruits, précise-t-on à Yaoundé. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
La situation est très tendue. Les populations sont dans une situation de peur, de stupeur généralisée, parce que personne ne prévoit la régularité des attaques à venir de ce groupe terroriste Boko Haram. Et aujourd'hui, tous les reportages, tous les comptes rendus faits à partir de la région de l'extrême nord témoignent de ce que l'ambiance est complètement perturbée par ces attaques à répétition, compte tenu de ce que ces incursions ne sont pas prévisibles.
En plus des civils nigériens qui se réfugiaient au Cameroun du fait de la violence, on assiste maintenant à l'arrivée de soldats nigériens au Cameroun.
Cette arrivée, c'est justement expliqué par le fait que quasiment tout le nord-est du Nigeria, notamment du côté de l'État du Borno, est absolument sous l'emprise de la secte Boko Haram, du groupe terroriste Boko Haram, qui y a imposé sa loi, poussant effectivement les soldats nigériens, les soldats de l'armée régulière, à battre en retraite et pour certains à fuir les combats ou venir se réfugier avec des centaines de soldats nigériens qui se retrouvent aujourd'hui en territoire camerounais.
À diverses reprises, les pays de la région ont affirmé leur solidarité face au péril Boko Haram, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Chacun semble se battre de son côté.
Naturellement, parce que la situation est complexe. Il s'agit de mener un combat contre un groupe terroriste. Ce n'est pas une guerre ordinaire où il y a en face des combattants identifiés. Donc, on tend à observer effectivement cette tiédeur-là de la part des pays amis, de la part des pays volontaires à assister le Cameroun dans cette délicate mission qui l'amène à se dresser face aux tueries, face aux agressions à répétition des éléments de ce groupe terroriste. Donc, je pense que c'est une situation qui peut s'expliquer par la complexité de la menace qui nécessite que les gens soient outillés pour faire face à ce genre de préoccupations.
Le professeur Manassé Aboya Ndong était joint à Douala, au Cameroun.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Niger, le bureau politique du Parlement a autorisé l'audition de son président, Ama Amadou, dans l'affaire de trafic présumé de bébés venant du Nigeria. Une décision qui crispe le climat politique dans le pays. Le point avec Lola Akomachri.
L'affaire de trafic de bébés venant du Nigeria prend un tournant politique. La famille de Ama Amadou se dit outrée par la décision mercredi du bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'audition de leur président. Soule Oumarou, l'avocat de Ama Amadou, dément toute implication de son client dans cette affaire et parle de machination politique.
Au cours de l'enquête préliminaire, depuis le Nigeria, le Bénin, la police judiciaire du Niger, à aucun moment donné, personne n'a accusé Hamma d'avoir acheté, récupéré, trafiqué des enfants au profit de sa famille de lui-même. C'est uniquement les membres du bureau de l'Assemblée qui sont du côté du président qui ont décidé, à l'absence du président du bureau de l'Assemblée, d'autoriser l'arrestation d'Hamma Amadou. Pour nous, c'est non seulement illégal, mais nous entendons poursuivre ces députés-là en justice pour avoir violé l'article 111 du Code pénal qui interdit à toute personne qui n'a pas respecté la loi sur les autorisations et les mains levées d'immunité d'être poursuivie pour attentat à la liberté et la peine encourue est de 5 ans à moins de 10 ans de prison. Nous attendons de voir ce que le procureur va faire. Si le procureur, avec cette décision illégale, émet un mandat contre Hamma Amadou, si le juge d'instruction le fait aimer, nous entendons porter plainte contre eux pour attentat à la liberté entre les mains du procureur général de la Cour de cassation.
Pour l'opposition, il s'agit d'une tentative désespérée du président de la République, Mamadou Issifou, d'écarter un rival politique en la personne de Hamma Amadou. Écoutons Issifou Tamboura, porte-parole du Mouvement National pour la Société de Développement, MNSD Nassara.
Les Nigériens savent que Issifou ne peut pas gagner une élection présidentielle au Niger. Jamais. Parce que son parti n'a pas cette envergure-là. Donc, il y a eu une fraude électorale massive qui l'a amené au pouvoir. Et maintenant, il veut bien remplir. La dernière fois, il disait que Hamma a servi de faiseur de roi. Mais je pense que tout simplement, Hamma a été avec sa mouvance. Ils ont gouverné ensemble. Il a vu que leur gouvernance, c'est seulement du pillage. Il ne crée pas de richesse. Et il a quitté à temps pour ne pas être responsable des mauvaises, des médiocres performances d'un régime. Ils lui en veulent. Voilà pourquoi ils ont cette obsession maladive de vouloir débarquer Hamma du perchoir où il a été élu pour 5 ans.
Le président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou, et son épouse Hadiza, qui est actuellement écrouée, ont fait savoir par leur avocat qu'ils demandaient des tests ADN pour prouver leur innocence dans cette affaire.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Une délégation du gouvernement de transition centrafricain s'est rendue le week-end dernier au Bénin pour rencontrer Michel Djotodia, l'ex-président en exil. Nicolas Pineau a joint Clément Anissé Guillaume Massogou, le conseiller politique de la présidente centrafricaine Catherine Samba Panza, qui a mené cette délégation.
Après Brazzaville, il était question d'engager un processus politique de dialogue et de réconciliation qui ne laisserait aucun des acteurs de la crise centrafricaine en dehors du processus. Et donc, Madame la Présidente de la République a souhaité que, en tant que conseiller politique, que je puisse rencontrer l'ancien président de Todia afin de discuter avec lui de son implication dans le processus politique de dialogue et de réconciliation.
Sous le coup de sanctions américaines, Michel Djotodia est-il le bon interlocuteur?
Aujourd'hui, quand on nous dit d'engager un processus inclusif, il nous faut nécessairement aller vers les acteurs qui ont un impact sur le terrain, qui prennent la décision. Que je sache, l'ancien président de Todia est aujourd'hui le président officiel de la CELECA. Depuis le congrès de Birao, en tout cas, c'est lui qui a été désigné président de ce mouvement. Et donc, si nous voulons véritablement aller vers la paix, en entendant peut-être que cet acteur ne tombe sur le coup de ce que vous semblez évoquer, et nous, on a l'obligation de discuter avec lui, de l'amener à s'impliquer pour la recherche de la paix.
Que vous a répondu Michel Djotodia?
Ce qu'il nous a dit, en substance, c'est que s'il avait accepté de remettre sa démission le 10 janvier 2014, c'est parce qu'il est un homme de paix qui ne voudrait pas que le sang des centrafricains continue à couler, que les destructions, les pillages, les vols, etc. s'arrêtent. Et donc, c'était pour sauver la situation du pays qu'il a fait. Et donc, il est encore disposé à apporter sa contribution pour que la paix puisse revenir en République centrafricaine.
Vous entendez également, dans les prochaines semaines, rencontrer le président déchu, François Bozizé?
Exactement. Madame la Présidente a clairement affiché la volonté de faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués dans la recherche de la paix, de quelque manière que ce soit. Parce que, dans notre entendement, nous pensons que là où ils sont, ils peuvent faire en sorte que la cessation des hostilités qui a été conclue à Brazzaville puisse devenir une réalité et que, lié à cela, que les désarmements puissent se mettre en place. Parce que c'est eux qui sont à la tête de ces différents mouvements, que ce soit la CELECA ou le mouvement anti-Balaka. Et donc, si nous ne discutons pas avec eux et que nous continuons à travailler avec les supplétifs,
peut-être que c'est là où nous n'allons pas atteindre l'objectif de la paix. Et donc voilà un peu la préoccupation qui est celle de Madame la Présidente de la République et que j'essaie de traduire dans les actes.
Clément Anisegui à Mamassogo était joint à Bangui en République centrafricaine.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En Afghanistan, le recomptage des voix du second tour de l'élection présidentielle s'est poursuivi hier après une brève suspension suite à la décision des deux candidats de retirer leurs représentants du processus. Les Nations Unies affirment qu'il ne devrait plus y avoir de problème majeur jusqu'à la proclamation des résultats. Le point avec Sarah Diaby.
L'audit de l'élection présidentielle afghane fait partie d'un accord de médiation obtenu par les États-Unis entre les deux adversaires au second tour de la présidentielle. Les deux candidats se sont engagés à respecter les résultats du recomptage des voix et à former un gouvernement d'union nationale. Plus de 70% des 23 000 urnes ont été vérifiées avant que des problèmes ne surviennent. Tout a commencé lorsque le candidat Abdullah a retiré ses observateurs, accusant les assesseurs de refuser d'élargir les critères d'identification des votes frauduleux. Abdullah a qualifié l'audit de farce. Quelques heures plus tard, son adversaire Ashraf Ghani a lui aussi retiré ses observateurs. Selon le chef adjoint de la mission onusienne, c'est à la demande de l'ONU que Ghani a pris cette décision pour préserver l'impartialité du processus. Son équipe reste toutefois déterminée à travailler en étroite collaboration avec les candidats pour conclure l'audit rapidement. Nicolas Eysom.
Donc, l'audit va maintenant procéder à sa conclusion sans la présence des représentants des deux candidats à la présidentielle. Il y a eu une pause ce matin, mais la vérification a repris cet après-midi et nous ne prévoyons pas de perturbations importantes dans le processus en cours. Nous continuons d'exhorter les deux candidats à la pleine participation dans le processus et nous sommes prêts à répondre à leurs préoccupations, qu'ils reviennent ou non.
Les critiques affirment que la crise politique est susceptible de profiter à l'insurrection des talibans. Les représentants des deux camps ont assuré que des négociations sont en cours entre Ghani et Abdullah, mais certains observateurs s'interrogent sur la sincérité de ces tractations. Naïm Ayoubzada fait partie de la centaine d'experts afghans indépendants participant à l'audit du vote. Il indique que les organes de la société civile ont appelé les deux candidats à résoudre rapidement la crise politique pour mettre fin à l'incertitude de leur pays déchiré par la guerre.
La seule option pour l'Afghanistan est de continuer et de terminer le processus de vérification correcte sur la base des lois et règlements en vigueur. Mais encore, vous le savez, les candidats malheureusement contestent le processus car il semble qu'ils ne soient pas parvenus à une entente politique réelle et ils savent que les résultats ne prendront pas nécessairement en compte leurs revendications.
Le président sortant Hamid Karzai a lui aussi exhorté les deux candidats à coopérer avec les autorités électorales afin de conclure l'audit et permettre à son successeur de prêter serment. Une première échéance est déjà en ligne de mire pour le nouveau président. La réunion de l'OTAN la semaine prochaine qui doit discuter des plans financiers et militaires de l'après-2014 en Afghanistan.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Comment en finir avec l'État islamique, le groupe terroriste le plus dangereux et le mieux financé sur la planète? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge. À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors le Mali va postuler à l'organisation de la CAN 2017.
Oui, après le désistement de la Libye en raison de l'instabilité dans le pays, la Fédération malienne de football a donc fait acte de candidature. Nous avons reçu l'aval politique des plus hautes autorités du Mali, a déclaré le président de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra, Déjà organisateur de l'édition 2002, le Mali devra faire face au Ghana, qui a déjà posé acte de candidature. Les pays souhaitant organiser cette CAN ont jusqu'au 30 septembre pour se faire connaître auprès de la Confédération africaine de football.
Et Nicolas, le président de la Fédération nigérienne de football, a été relâché.
Aminu Maigari est sorti de prison, selon l'un de ses proches. Pendant son absence, un nouveau président a été élu lors d'une assemblée générale tenue mardi soir. Maigari devait présider l'assemblée générale de 44 membres reconnus par la FIFA afin de mettre en place les modalités de l'élection du futur président et de ce comité exécutif. Le 9 juillet dernier, la FIFA avait suspendu la Fédération nigérienne de football en raison d'ingérence gouvernementale avant de lever sa mesure 9 jours plus tard.
Et pour les transferts, Samuel Eto'o poursuit en Angleterre.
Sans club, depuis la fin de son contrat avec Chelsea en juin, le Camerounais s'est engagé pour 2 ans avec Everton. Samuel Eto'o, 33 ans, pourrait effectuer ses débuts avec Everton samedi en championnat face justement à Chelsea. Enfin Nathalie, je vous laisse donner les résultats des barrages. Hier en Europe, la Ligue des Champions.
Malmö l'a emporté contre Salzbourg 3-0. Victoire de Ludogorets contre Bucarest 1-0. Arsenal l'a emporté contre Besiktas par 1-0. Leverkusen a gagné contre Copenhague 4-0. Et l'Athletic de Bilbao l'a emporté contre Naples par 3-1. Et voilà donc pour la page sportive. Et maintenant, c'est l'heure de la page musicale. Alors, pour la page musicale de la country music ce matin avec Julia Shear, chanteuse américaine de 22 ans. Elle a commencé à diffuser certaines de ses chansons sur YouTube en 2010, dès l'âge de 18 ans. Son travail a impressionné à tel point qu'il a obtenu près de 50 millions de vues, devenant numéro 4 des vidéos les plus regardées. En 2011, elle était dans le groupe Caroline Kunti, mais elle se concentre maintenant sur des collaborations avec d'autres chanteurs et des projets en solo. Pour donner une idée du succès de l'étoile montante, sa page Facebook compte plus de 200 000 fans et sa chaîne sur YouTube a atteint plus de 350 000 abonnés. Sweet. c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Bonne journée, à bientôt.